Bienvenue à tous et bonjour.
Bonjour.
C'est juste pour voir si le micro il va bien. Le micro va pas bien. Donc ça va. Et vous, ça va? Allô, allô, un petit peu plus fort. Ça va aller, ça va aller. Nous sommes le dernier dimanche de l'année et nous avons décidé en consistoire de faire un culte entre nous. Un peu convivial pour faire un peu le bilan de l'année écoulée. Mais si vous êtes là pour la première fois, vous êtes les bienvenus dans cette petite chapelle du XVIe siècle. Bienvenue à vous tous. Et je vous invite à chanter ensemble le cantique qui va s'afficher sur l'écran. Ensemble, nous pouvons chanter. Prions. Père éternel, il est un fait que c'est toi qui nous a réunis. Parce que si nous n'avions même pas la pensée que tu existes, nous ne serions pas là. Mais nous savons que tu es là, que tu existes, tu nous as précédés. Seigneur, merci. Merci de mettre ta main sur nous, de mettre ta main bénissante sur nous, sur chacun de nous. Fais taire le bruit du dehors, ouvre nos oreilles encore, de notre cœur, que nous puissions te rencontrer, te toucher. Merci pour ton amour qui a été jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus. Amen. Lecture du psaume 107. C'est ce psaume qui va faire tout le lien de notre culte aujourd'hui. Psaume 107. Dans certaines versions, c'est le 106. Je pense que la français courant est de 106. Psaume 107. Louez le Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin. Voilà ce que doivent répéter ceux que le Seigneur a pris en charge, qu'il a retiré des griffes de l'adversaire et rassemblé de tous les pays, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Midi. Certains perdus étaient perdus dans un affreux désert, sans retrouver le chemin d'un lieu habité. Mourant de faim et de soif, ils étaient en train de perdre courage. Alors, dans leur détresse, ils appelèrent le Seigneur à son secours et il les délivra du danger. Il les mena par un chemin direct, un lieu habité. Qu'il loue donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains, car il a donné à boire à ceux qui défaillaient de soif, et ceux qui mouraient de faim, il les a comblés de tout nécessaire. Prions. Nous te louons, Père, parce que tu nous aimes. Nous sommes tes enfants rachetés, et tu multiplies tes merveilles en notre faveur. Nous te louons pour Jésus-Christ, parce que nous étions errants dans les déserts, et il nous a nourris et abreuvés par la bonne nouvelle du royaume. Nous te louons pour le Saint-Esprit, parce que malgré nos différences, il nous rassemble et fait de nous un seul peuple, ton peuple. Nous te louons pour ce jour qui nous a fait entrer dans la joie de ton règne, nous rendant participants à ta gloire. Et nous voulons te chanter, chanter ta gloire, car tu es saint. Et je vous invite à chanter ce chant. Saint, saint, saint est le Seigneur. Psaume 107, verset 10 jusqu'à 19. D'autres, misérables prisonniers enchaînés, étaient assis dans un obscur cachot. Ils avaient été rebelles aux ordres de Dieu. Ils avaient méprisé les décrets du Très-Haut. Il les fit plier sous le poids de la peine, sans personne pour venir les relever. Alors, dans leur détresse, ils appelèrent le Seigneur à son secours. Et il les sauva du danger. Il les retira de leur obscur cachot et rompit leurs liens. Qu'il loue donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains. Car il a fracassé les portes de bronze, il a brisé les verrous de fer. D'autres montraient qu'ils avaient perdu la raison, tant ils se conduisaient mal. Par leur faute, ils étaient accablés de tourments. Écœurés par leur toute nourriture, ils avaient déjà un pied dans la tombe. Alors dans leur détresse, ils appelèrent à grands cris le Seigneur et il les sauva du danger. Nous avons méprisé le conseil du Très-Haut. Nous nous sommes révoltés contre ses paroles. Nous avons succombé. Mais assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, examinons-nous. Je vous propose un moment de silence. Seigneur, tu nous as donné le pain de chaque jour. Tu nous as réjouis par ta création. Tu nous as assurés de ta miséricorde en Jésus-Christ. Mais nous ne t'avons pas dit notre reconnaissance. Pardonne-nous. Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre. Tu as mis devant nous la souffrance de nos frères et de nos sœurs. Mais nous sommes restés insensibles. Pardonne-nous. Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien, mais dans les soucis, nous avons été gagnés par la crainte. Et devant la tâche que tu nous indiquais, nous n'avons pas su t'obéir. Pardonne-nous. Accorde-nous, Père, des cœurs reconnaissants, attentifs et disponibles pour ton service. En ce premier jour de la semaine, nous voulons regarder à toi Dieu d'amour, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Éternel, nous crions à toi, car tu nous le délivres. La suite du psaume, verset 20, psaume 107, verset 20. D'un mot, il les guérit, il les arracha à la mort. Qu'il loue donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains. Qu'ils offrent des sacrifices pour louer Dieu. Qu'il crie de joie et raconte ce qu'il a fait. Et dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 8, voilà ce qu'il nous est dit. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, encore perdus, Christ est mort pour nous. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon, de son amour. En Jésus-Christ, pour que nous puissions marcher dans son royaume. Et je vous invite à chanter ce chant. Tournez les yeux vers le Seigneur, et puis nous prendrons un moment de louange, de prière. Libre, libre à vous, sentez-vous libre, ne fût-ce que même un soupir parfois. Dieu entend. Je vous invite à poursuivre dans le psaume 107. Je lirai, moi, dans la version second 21, 107 ou 106 suivant. Verset 23. Psaume 107, verset 23. Ceux qui étaient partis en mer sur leur bateau et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et s'émerveillent en haute mer. D'un mot, il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Ils montaient vers le ciel, ils descendaient dans l'abîme, ils étaient angoissés face au danger. Saisis de vertige, ils titubaient comme un homme ivre et toute leur habileté était réduite à néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, ramené le calme, et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles étaient apaisées, et l'Éternel les a conduits au port désiré. Une deuxième lecture dans l'Évangile de Luc. Luc chapitre 8, verset 22. Luc chapitre 8, versets 22 à 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons sur l'autre rive du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous allons mourir !» Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Qui donc est cet homme ?» Il donne des ordres même au vent et à l'eau et ils lui obéissent. Jusqu'ici, les lectures. Je t'invite à la prière. Père éternel, encore une fois, nous voulons nous remettre devant ces textes qui sont ta parole, ce que tu as voulu nous transmettre, ce que tu as voulu faire passer au travers des 2000 ans qui nous ont séparés. Seigneur, merci d'ouvrir vraiment nos oreilles, notre cœur, et que je sois vraiment le simple haut-parleur pour passer ton message, ta voix, dans le nom de Jésus. Amen. Le psaume 107 nous relate les péripéties de quelques catégories d'hommes et de femmes qui ont vécu certains aléas. Ils ont fait une sorte de bilan de vie. Ils parlent de ceux qui se sont perdus dans le désert, c'est ce que nous avons lu en début de culte, perdus dans le désert, découragés, mourant de faim, de soif, d'autres qui étaient en prison, ceux qui refusaient ce que Dieu disait, d'autres encore qui ont perdu la raison et qui montraient une conduite dépravée par leur faute et par leur vie dissolue. Ils avaient déjà un pied dans la tombe. Eh oui, c'est pas joli. Et enfin, le dernier passage que nous avons lu nous montre des marins en proie à une tempête. Oh, pas gai tout ça. Ce psaume, il est évident, dans un premier temps, nous rapporte ce que le peuple d'Israël a vécu à cause de son entêtement, de sa désobéissance, de sa rébellion vis-à-vis de Dieu. Dieu qui, malgré tout, a délivré, nourri, abreuvé, béni, libéré, guéri. J'ai mis des petits points. Il a tout fait. Près de 2000 ans, 2400 ans exactement, par rapport à ce psaume, quand on regarde notre monde, est dans le même état. Rien de changé. Il n'y a rien de changé. Si on tire un bilan géopolitique, j'ai trouvé le mot, je le mets, comme ils disent eux, c'est catastrophique. Réchauffement climatique, flux migratoire, exploitation des ressources naturelles, corruption en tout genre. Bien grand mot tout ça. Alors on essaie de trouver des solutions, évidemment. Greta Thunberg, centre fermé, commerce équitable, taxes d'environnement. Belle solution, tout ça. C'est comme au casino, désolé, la bille est lancée et rien ne va plus. Le psaume 107 nous montre 4 tableaux peints en peinture noire. Si on est défaitiste ou optimiste, triste. Par contre, si nous sommes optimistes, nous pouvons voir qu'il y a pour chaque cas une solution. Chaque cas, une solution. Un bilan peut être aussi lu dans tous les sens, avec désarroi ou avec reconnaissance. De même, nous pouvons regarder aussi nos années passées, ou du moins peut-être que juste cette année, comme une année à revivre ou à oublier. C'est le cas du verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est pourtant la même eau qui fait le niveau. Et c'est suivant de quel côté on regarde. Suivant que vous regardez en arrière, en regret ou en remords, ou en bénédiction, ben votre morale va changer. Ou il va en prendre un coup. Ou vous allez faire une dépression. Dans les 3 premiers cas que nous avons lus dans l'introduction, désert, prison, folie, les hommes sont en partie responsables de ce qu'ils ont fait et de ce qui leur arrive. Les premiers s'égarent dans leur chemin et se trouvent dans le désert. Ils se perdent. Les deuxièmes étaient en prison, enchaînés. Ne dites pas qu'ils ont été tout seuls, On les a mis. De plus, ils se sont rebellés contre l'autorité de Dieu. Les troisièmes, eux, se sont conduits en insensé. Par leur faute, ils étaient tourmentés. Il est marqué « écœurés par leur nourriture », nous dit le texte, ils avaient déjà un pied dans la tombe. Qu'est-ce qu'ils ont mangé ? Je ne sais pas, mais pour être écœurés par la nourriture, il faut y aller. c'était des morts vivants ou des vivants morts, verre plein ou verre vide, ou à moitié plein. Par contre, le quatrième tableau que nous avons lu nous dépeint des travailleurs qui utilisent simplement leur bateau à des fins tout à fait professionnelles. Eux ne demandent qu'à faire leur job, mais quand même, s'aventurer en haute mer, c'est quand même prendre des risques, mais c'est leur métier. Ils y vont parce que c'est eux, ils ont leur métier. Vous allez me dire, quel rapport avec notre vie à nous? Ça ne risque pas de nous arriver, nous, hein. Le seul bateau qu'on connaît, c'est le pays de Liège, et la Meuse, c'est calme, hein. Donc, pas de tempête. Mais il y a quelques années, je faisais un camp dont le thème était mon bateau sur l'océan de la vie, et je développais certains aspects de la vie à partir des bateaux, comme si on était sur un bateau qu'on avait pris, ou qu'on devait quitter, ou qu'on devait emprunter, ou qu'on n'avait pas le choix. Et par exemple, j'avais mis le bateau de mes parents, donc c'est le bateau évidemment qu'on prend parce qu'on est obligé, mais à un certain moment, il faut le quitter. Et puis il y a le bateau de la connaissance, on est obligé d'étudier, parce que c'est un minimum. Sinon, là aussi, on peut le quitter ou pas, on peut le revoir ou pas. Puis j'avais parlé du bateau du mariage, là aussi. Là, la Bible ne donne pas de solution pour sortir du mariage. Là, mais parfois on le quitte aussi. Parfois bien en mal. Puis il y a le bateau du travail, celui qu'on emprunte, qu'on est obligé, parce qu'il faut. Programme, travail, on est obligé. Et puis après, on vous oblige à le quitter. On vous met dehors, ou on met la pension. Et puis le bateau de la richesse, celui qu'on est bien, on a de l'argent, heureusement qu'on a ce bateau-là, parfois. Et parfois, ben, on est obligé de le quitter, ou alors il sombre. Mais ces embarcations sont toutes sur le même océan. Bizarre, hein? Non. Sur le même océan. Et qu'une tempête arrive, toutes sont secouées de la même manière. La différence, c'est à quoi je vais m'accrocher. Mon bateau, mon pognon, mon argent, mon conjoint, mon patron. Pas dit. Parfois, il se retourne le bateau. Et là, on se retrouve parfois SDF. Mais, bon, c'est comme ça. Vous connaissez l'émission « Les orages de la vie », hein, qui a été arrêtée parce que le gars, il a eu un très gros orage. Nous aussi, nous pourrions nous y passer à cette émission, parce que tout le monde a subi les vagues qui ne nous ont pas épargnés, qui nous ont écorchés. Mais qu'est-ce que l'orage m'a apporté à moi? À part la trouille, des flashs dans les yeux, des vibrations dans les oreilles, d'être trempé. Mais à part ça, qu'est-ce qu'un orage peut m'apporter? Justement, ce matin, je disais dans la voiture, un orage, ça peut soit tout balayer, soit nettoyer votre terrain, votre route, l'un ou l'autre. C'est sûr que loin d'être des criminels en puissance ou des insensés fous, nous n'avons peut-être pas ni connu ni la faim ni la soif, mais nous avons dû traverser des moments de grêle, des moments de tempête. Nous savions que, c'est sûr, que le Seigneur allait nous en sortir. C'est certain. Parce que de toute façon, après la pluie, vient le beau temps. Et puis l'arc-en-ciel. Il ne peut pas être autrement, c'est comme ça. Mais sur cette mer agitée de la vie, où les vagues parfois sont tellement hautes, le dit notre texte, et tellement creuses, qu'on en a le vertige, que l'on se retrouve comme un ivrogne sans avoir bu, sans avoir bu une seule goutte d'alcool, et où toute notre habileté est perdue, réduite à néant, il n'y a aucun espoir. Quand on est dedans, aucun espoir. Dans les trois premiers cas que nous avons lus, la prison, le désert, la folie, il y a toujours une solution humaine possible. Puisque les personnes qui vivent ce genre de choses sont en partie responsables. Si on élimine la cause, il n'y a pas de souci, on peut l'éliminer, on peut s'en sortir. Mais le psalmiste rend quand même hommage à Dieu, c'est quand même Dieu qui délivre après avoir prié. En effet, versets 6, 13 et 19, on nous indique que Les hommes en péril ont crié à Dieu, ont crié au Seigneur, et ils se sont rendus compte à un certain moment qu'ils s'étaient écartés de la vie que Dieu leur demandait ou leur donnait. Et dans leur détresse, ils l'appelèrent, et le Seigneur, lui, s'est exécuté. Il a entendu, il a délivré et sauvé du danger, de leur danger, parfois spécifique, libéré de leurs angoisses. Et le texte hébreu va encore plus loin, c'est encore plus profond. Dieu les délivrait de leurs anxiétés dans leurs angoisses. C'est encore plus profond. Il a été jusqu'au bout des choses pour les retirer. Et l'auteur du psaume s'exclame par trois fois en un conseil avisé, qui loue donc le Dieu, le Seigneur, pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains. Qu'il le loue, ça, après la délivrance, qu'il le loue. Ah, le bon Dieu. C'est étonnant quand les humains reconnaissent que Dieu est bon parce qu'il fait des miracles pour eux, parce qu'il a fait quelque chose pour eux. À ce moment-là, c'est le bon Dieu. Il est juste bon, mais il n'est pas méchant. Il a fait un miracle. Mais attention, si moi, je subis la catastrophe, alors là, c'est de sa faute. D'office, c'est de sa faute. C'est pas de ma faute à moi, c'est de la sienne. Et dans le cas qui nous intéresse, c'est ça. C'est Dieu. Dieu qui envoie l'épreuve. Et dans le cas qui nous intéresse, les délivrances sont opérées, mais auraient pu, dans les trois premiers cas, arriver tout naturellement. C'est le danger de ne pas accorder à Dieu sa priorité. C'est de dire de toute façon, je savais que ça passerait, je savais que ça allait arriver comme ça. Comme je le disais il y a 15 jours, c'est vraiment séculariser la réponse à la prière. Bon, c'est ce qu'on appelle le cynisme. Exactement, le désert a une limite, je peux de toute façon m'en sortir, et puis il a peut-être une oasis. J'ai une réponse humaine. La prison, quand j'ai fini ma peine, je serai dehors. Je peux m'en sortir, je serai libéré tôt ou tard. La folie peut prendre fin si je me calme dans mes folies, dans mes délires, si j'arrête de manger comme un ogre, ça ira mieux. Dans cette libération, nous pouvons très bien ne pas mettre Dieu au centre de la délivrance, ni lui accorder le bénéfice du salut. Mais quand c'est Dieu lui-même qui déclenche l'ouragan, qui nous submerge, que faire? Et généralement, la réaction est la même. La question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Alors quand on regarde les autres, ils ne méritent pas ça. Ça ne devait pas arriver quand même, pas à lui. Seigneur, pas à moi. J'ai prié, j'ai quand même été à l'église. Mais ça ne peut pas m'arriver à moi. Mais la vie est une mer en mouvement permanent, où il y a rarement un chemin tout tracé, droit et sans déviation. C'est rare. Ça existe, hein. Il y a des gens qui ont une vie, qui se sont dit, oh, j'ai bien vécu. J'ai pas vu beaucoup. Et je voudrais, pour, en guise d'illustration, vous rapporter un témoignage que j'ai lu. Paul Miller est le directeur exécutif de Si Jésus, une mission mondiale de formation de disciples qu'il a fondée en 1999 pour aider les chrétiens et les non-chrétiens à voir Jésus. Et aujourd'hui, Si Jésus travaille dans plus de 30 pays et a des livres et du matériel interactif d'études bibliques traduits dans une douzaine de langues. Et ce monsieur, Paul Miller, a avec sa femme 6 enfants, dont 5 sont en parfaite santé. Et quand il entendait une des filles, là, dans le livre, j'ai pas su déterminer si c'était la dernière ou peu importe, quand sa femme attendait une des filles, elle a prié le psaume 121, demandant à Dieu de garder son bébé de tout mal. Mais l'accouchement s'est mal passé. Et la petite est née autiste muette. Je vous passe tous les détails. Autiste muette. Ils ne seront le diagnostic que 19 ans plus tard. Ils ont appris que le médecin accoucheur a mis trop de médicaments pour provoquer l'accouchement. Ils ont dû s'adapter toute leur vie à un enfant handicapé qui communiquait à travers un ordinateur vocal. Donc elle tapait, elle arrivait à taper des lettres, et l'ordinateur parlait pour elle, parce qu'elle ne savait pas parler. Comment Dieu a-t-il pu faire ça? Mais en finalité, la maman et une des autres filles sont devenues des éducatrices spécialisées. Et un jour, la famille a évité d'être asphyxiée par le chauffe-eau qui était défectué parce que la petite fille handicapée était très sensible au monoxyde de carbone. Et c'est elle qui a déclenché l'alerte. Les parents ont appris à mieux communiquer parce qu'ils devaient plus faire attention à elle, attention à ce qu'elle disait, à ce qu'elle voulait, à ce que transmettait leur fille. Il y a tout un livre, je vous passe tous les détails, je n'ai pris qu'une partie. La mère est en permanence agitée. La barque est sans cesse secouée, la tempête peut à tout moment subvenir sans crier gare. Le tout est notre regard. Notre regard sur Dieu, sur Jésus. Comment est-ce que je vois Jésus? La fondation de ce monsieur, Paul Miller, s'appelle « Si Jésus », qui veut dire en français « voir Jésus ». Comment voir Jésus? Comment voir Jésus dans ce que je vis, dans ce qui me tombe sur la tête, dans ce qui me secoue? Je peux voir Jésus dans mon bateau. Je peux l'avoir embarqué avec moi. Je peux être converti depuis très longtemps. Depuis trop longtemps, peut-être, que le maître s'est endormi. Comme dans l'aventure des disciples sur la mer de Galilée. Il faut croire que, apparemment, au départ, c'était très calme pour que Jésus s'endorme et que les disciples n'aient pas de problème. Mais peu importe, il était là. Là, dans la même barque, à portée de main. Ce n'était pas un paquebot où il y a 6000 personnes. Hein. Il n'y avait que 12 dans le bateau. Hein. 13 avec Jésus. Il était là, à portée de main. Mais dans le récit, c'est quoi le problème? La tempête? Ben oui. La peur des disciples? Certainement. Le sommeil de Jésus? Oui, mais il était là. Certainement que la mer déchaînée était le départ, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quelle question pose Jésus après avoir calmé les éléments en furie? Quelle est cette question? Où est votre foi? Où est votre foi? Si nous relisons le texte, nous voyons que les disciples, ils ont deux fois la trouille. Ils ont peur deux fois. La première fois, c'est quand ils voient le tourbillon de l'eau qui envahit la barque. « Au secours, maître, nous allons mourir !» Et la deuxième fois, c'est après que Jésus leur ait posé la question « Où est votre foi ?» Où est votre foi? En fait, ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté cette question. Ils se sont braqués sur Jésus lui-même. Oh, d'accord, ils ont regardé à Jésus. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'ils répondent? Qu'est-ce qui se pose entre eux? Qui est cet homme? Qui est cet homme? Il donne des ordres au vent et à l'eau et lui obéissent. Qui est cet homme? Qui voyons-nous en Jésus? Une espèce de magicien qui peut éventuellement faire des miracles? Ou un dormeur qui ne se soucie de personne? La bonne question, où est notre foi? Où est notre foi? Dans le psaume 107, je relis les versets 23 et 24. Ceux qui étaient partis en mer sur leur bateau et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et s'émerveillent en haute mer. Ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et s'émerveillent en haute mer. Que voyons-nous dans nos tempêtes, enfin? Que voyons-nous dans ces grandes vagues qui montent et qui descendent, et on ne voit personne? Que voyons-nous? La colère du Seigneur, le Dieu justicier, le Dieu vengeur, ou l'Éternel qui fait de grandes choses, merveilleuses? Que voyons-nous? Et dans nos bateaux, frêles coquilles de noix secouées par les vicissitudes de la vie, qui voyons-nous? Qui voyons-nous? Un Jésus qui dort? Un homme que je ne connais pas? Un Jésus que je n'écoute pas? Qui voyons-nous? Devant le bilan de l'année écoulée, que dire? Ouf, je ne voudrais pas repasser cette année, hein? Ou j'espère que l'année prochaine sera mieux. Combien de fois j'ai vu ça passer? Je te souhaite une meilleure année que l'année dernière. On l'espère tous. Qu'est-ce que je peux me poser la question? Ou me reposer la question que je n'ai pas voulu entendre? Où est ma foi? Où est ma foi? Où a été ma foi en 2019? Mais bon, je ne peux rien changer du passé. Alors je me tourne vers l'avenir. Comment vais-je voir Jésus? Suis-je prêt à l'écouter? Simplement l'écouter. Il n'a pas dit grand-chose, hein? Où est ta foi? Quatre mots. On n'a même pas su l'écouter. Les disciples n'ont pas su l'écouter. Où sera ma foi en 2020. Je voulais cette promesse qui est au psaume 107, verset 30. Promesse immense de Dieu. L'Éternel les a conduits au port désiré. Malgré ces grandes tempêtes, ces grandes vagues, Dieu a tenu promesse. Mais il repose la question, où est votre foi? Amen. Père éternel, faire un bilan, c'est se poser des questions. Je veux me poser cette question. Où ai-je mis ma foi pendant ces années écoulées? En qui ai-je mis ma foi? Et pour l'avenir, en qui est-ce que je veux mettre ma foi? Qui est-ce que je veux voir dans mon bateau? Juste un homme qui dort? Ou Jésus, le Sauveur? Père éternel, aide-nous. Aide-nous à avoir toujours les yeux fixés sur toi. Et éviter de regarder la mer. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Amen.